Et bonjour à tous, c'est une petite leçon de botanique avec Caro. Ces temps un peu durs, on va s'apaiser, se radoucir avec les fleurs et notamment leur composition. Donc une fleur est composée de plusieurs pétales et cet ensemble se nomme la corolle. À la base de la corolle, les pétales sont retenus dans le calice formé de plusieurs petites feuilles vertes, les folioles. À l'intérieur des pétales se trouvent de nombreux filaments gracieusement recourbés, des étamines. Elles portent une petite tête jaune nommée anthère. Chargée d'une fine poudre jaune, le pollen, au beau milieu, vous apercevez une petite tige, le pistil. Organe femelle de la fleur avec des boursouflures à la base, les ovaires, qui contiennent des petits œufs qui deviendront les graines. Au bout du pistil, les stigmates servent à retenir le pollen. Ils deviennent humides ou gluants dès que le pollen est prêt à s'échapper des anthères. C'est la magie de la fécondation. Maintenant que vous connaissez les principaux termes de botanique, partons à la découverte des merveilleuses fonctions de chacune d'elles. La calice, souvent de couleur verte, et l'organe protecteur, qui sert d'enveloppe à la corolle, aux étamines et aux pistils. La corolle est formée par l'ensemble des pétales, elle sert à attirer subtilement les insectes qui viendront la féconder. Les étamines, organe mâle de la fleur. Prenons le temps d'observer dans la nature une fleur d'églantine, ce charmant petit rosier sauvage. Choisissez une petite fleur qui vient de s'ouvrir. Les étamines attireront votre regard comme des rayons de soleil. Observez maintenant la dextérité de l'abeille qui vient la butiner. Ses pattes entraînent rapidement le pollen vers le pistil, puis elles envolent vers une autre fleur, les pattes chargées de ces petites boules jaunes. Cette récolte, elle ira la déposer dans une ruche et grâce à l'apiculteur, vous pourrez la déguster au petit déjeuner. À l'aide d'une loupe, regardez comment le pistil accueille cette fine poudre ainsi que le chargement des couleurs des anthères en quelques minutes. Elles deviennent marron et les étamines se courbent vers le cœur de la fleur. Vous saurez ainsi reconnaître les fleurs qui ont été pollinisées de celles qui n'ont pas encore reçu la visite des abeilles. La nature est complexe. Certaines fleurs ne possèdent pas de pistil et sont stériles. On peut d'ailleurs trouver les deux sur une même tige. N'oubliez pas que les abeilles, les bourdons et les papillons sont indispensables à la fécondation des fleurs dans la nature. Les graines. Un herbier peut également accueillir de multiples sortes de graines. Voyez comme la nature est prodigieuse. Observez comment les graines se sèment dans la nature. Certaines graines, comme celle du pissenlit, s'échappent, telles les parachutes portées par le vent. D'autres, comme celle des géraniums, sont chassées par les catapultes. D'autres encore ouvrent de petites fenêtres dans leurs capsules par lesquelles les graines peuvent sortir au gré du vent. C'est le cas des campanules et des coquelicots. Les graines de lierre, de tournesol ou les mûres sont ingérées par les oiseaux et rejetées dans leurs excréments. Observation, vous avez certainement arraché de jeunes lierres ou ronces dans votre jardin, dans le pied des haies et des arbustes. Cela est dû aux déjections des oiseaux qui se perchent dans leurs branches. Les feuilles, à quoi servent-elles? Elles absorbent dans l'atmosphère les éléments nécessaires à la nutrition de plantes qui les portent, eau et lumière. Mais que respirent-elles? Du gaz carbonique, car elles transforment ce que les humains et les animaux rejettent en expirant. En respirant, nous inspirons de l'oxygène et rejetons le gaz carbonique. Les plantes décomposent rapidement ce gaz, conservent le carbone et rejettent dans l'air l'oxygène. L'air se trouve ainsi purifié par les végétaux. Les feuilles sont soutenues par une queue mince appelée pétiole. Si elles n'en ont pas, elles sont dites feuilles sessiles et se terminent par une limbe ou un disque. Ce dernier peut être simple, composé ou articulé. Les feuilles seront lancéolées en forme de lance, cordiformes en forme de cœur, marginées ou panachées, lyrées, linéaires, astées, graminformes, engainantes, distiques, décurrentes, cupidées, bilobées, bifides. Les tiges sont herbacées quand elles sont tendres ou ligneuses, lorsqu'elles se transforment en bois. Je ne parlerai pas ici des 500 000 variétés de plantes diversifiées en groupes, familles, classes, genres, variétés et espèces. Les botanistes l'ont très bien réalisé dans leurs ouvrages appelés flores. N'hésitez pas à les consulter sur les flores d'Europe, de vos régions, de bord de mer ou de montagne, et si vous voyagez, celles des pays visités, qu'ils soient nordiques ou tropicaux. Donc si vous avez le temps et le cœur à cela, je vous conseille de faire un herbier. Qu'évoque pour vous le mot herbier? Des odeurs, des couleurs, des lieux, des souvenirs, une promenade, un retour à l'enfance, votre humeur vagabonde. Imaginez, vous découvrez un petit carnet dans une bibliothèque ou dans un tiroir, vous l'ouvrez et là, c'est un instant magique. Les promenades et les randonnées défilent sous vos yeux. Vous redécouvrez votre bonheur, des croquis, des dessins aquarellés, des photos, des écritures, une herbe séchée, une charmante violette, une petite branche de myosotis, sauvage ou de campanule qui ont gardé toute leur fraîcheur. Peu de moments fantastiques passés pendant les vacances à observer la prairie derrière la maison de grand-mère ou se goûter sur l'herbe. Cette divine promenade en montagne, l'été avec des amis ou encore ce geste d'amour immortalisé dans ce fragile souvenir. L'herbier, c'est tout cela à la fois, de l'observation des abeilles, des fleurs sauvages, des herbes folles qui nous entourent aux souvenirs qu'ils nous évoquent. J'invite petits et grands à découvrir lors de leur promenade les trésors de la forêt, les bords de mer, de la montagne et de la campagne. Partez explorer ces immensités à la découverte de la nature et mettez en scène vos précieux trésors dans votre herbier. Ouvrez grand vos yeux, le festival commence. Donc c'était pour créer un herbier. Il y a plus de précision ici, mais je pense qu'on va déjà assez loin en détail. Les herbes folles aussi, on en a plein les jardins. Mais qu'est-ce que c'est ces herbes folles? Voilà un qualificatif qui, après la lecture de ce livre, sera probablement banni de votre langage. Elles seront peut-être devenues des indésirables, mais rien de plus. Ce qu'il a supposé, qu'elles seront mieux ailleurs que dans votre jardin. Imaginez-vous un seul instant à quatre pattes désherbant la prairie, jouxtant votre jardin ou les alpages. Comment, après cette constatation, pourrions-nous les qualifier de mauvaises herbes? Comme moi, passionnée de plantes, vous remarquez, lors de vos promenades, ici ou là, un ensemble de fleurs et de superbes graminées, un arbuste ou des plantes vivaces et parfaites, harmonie, et pourtant, personne ne l'aura cultivé. Les plantes offrent un décor magique, il n'y a rien à ajouter. L'association des couleurs, le graphisme, tout est équilibré. C'est une véritable leçon d'humilité, nous n'avons plus qu'à imiter. Pour une première chronique, voilà, c'était un petit détail de qu'est-ce qu'une plante, pour sa composition, une fleur. Donc il y a pas mal de fleurs dont nous allons parler prochainement. Celle du printemps qui arrive, malheureusement confinée, au moins lors de votre balade, votre heure de balade acceptée par le gouvernement. Vous pourrez peut-être trouver des petits sentiers. Malheureusement, on ne peut pas trop s'éloigner de notre domicile, mais c'est pour la bonne cause. Donc bon courage, ou renseignez-vous, ou lors de vos courses dans les supermarchés, peut-être acheter une plante, ça peut être un bon début. Et c'est toujours apaisant d'avoir de la verdure à l'intérieur de chez soi. En tout cas, je vous remercie, c'était la chronique plante de Caro.